VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 13h à Bamako, 14h à Niamey. Bienvenue dans notre journal d'information. Aujourd'hui, dans l'actualité africaine, ouverture du procès devant les tribunaux militaires d'Abidjan de 14 membres de la garde rapprochée de l'ex-président Laurent Gbagbo pour leur rôle dans la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait 3000 morts. Par ailleurs, face aux critiques après le procès de l'épouse de Laurent Gbagbo dans ce même contexte, le gouvernement ivoirien a démenti hier toute interférence dans la lourde condamnation de l'ex-première dame ivoirienne pour les violences post-électorales. Le point avec Bagassi Koura.
Pour le gouvernement ivoirien, il n'y a absolument pas d'interférence. La justice fait son travail de manière totalement indépendante. C'est ce qu'a affirmé Bruno Kone, porte-parole du gouvernement, lors d'une conférence de presse à Abidjan. Il s'agit d'un procès d'assises qui fonctionne avec des jurés qui sont pris au hasard, a poursuivi Kone, cité par l'AFP. Simone Gbagbo, épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo, a été condamnée mardi à 20 ans de prison, notamment pour attentat contre l'autorité de l'État. Le parquet général avait requis une peine de 10 ans de prison. Le verdict donne le net sentiment qu'il s'agit d'un acharnement contre la famille et les proches de Laurent Gbagbo, a regretté Alphonse Douati, ministre sous Laurent Gbagbo. Si les deux camps se sont montrés coupables d'exactions pendant la crise de 2010 à 2011, aucun responsable pro-Ouattara n'a à ce jour été inquiété, ce qui nourrit les accusations de justice des vainqueurs à quelques mois seulement de la présidentielle d'octobre.
En Mauritanie, appel de 24 organisations de défense des droits humains et de la société civile. Un appel aux autorités mauritaniennes pour qu'elles gracient un jeune blogueur condamné à mort en décembre sous l'accusation d'avoir abjuré sa foi musulmane. Dans un article publié sur Internet, il avait critiqué l'utilisation de l'islam pour perpétuer le système de caste dans le pays. Michel Joseph.
Mohamed Mketir est la première personne à être condamnée à la peine capitale pour apostasie en Mauritanie. Durant son procès, le juge l'a accusé d'avoir parlé avec légèreté du prophète Mohamed dans son article. Mketir a expliqué que ce n'était pas du tout son intention et s'en est repenti. Selon la loi islamique, cela pourrait lui valoir la clémence de la justice. Le jeune blogueur a aussi interjeté appel et la Cour suprême pourrait le gracier. L'article de Mohamed Mketir avait suscité des manifestations de protestation dans l'ensemble de la Mauritanie, seule république islamique d'Afrique de l'Ouest. Pour Amnesty International, ce pays doit supprimer de son code pénal la criminalisation de l'apostasie, car cela va contre le droit international.
En Guinée, friction entre le pouvoir et l'opposition au sujet des dates des prochaines élections présidentielles et locales. Selon la commission électorale, le premier tour de la présidentielle est fixé au 11 octobre 2015 et les élections communales à fin mars 2016. Or, l'opposition souhaite l'organisation des communales avant les présidentielles. Nicolas Pinault a interrogé à ce sujet Mamadi Kondé, ambassadeur de la Guinée aux États-Unis.
Je respecte vraiment cette opposition, elle est dans son rôle, c'est normal. Mais il faut respecter aussi la CENI, qui est un organe indépendant. Donc si la CENI a fixé le chronogramme des élections, c'est tout à fait légitime et normal que nous nous y plions.
Qu'est-ce que vous répondez concernant ce souci de la transparence et de la crédibilité des scrutins à venir en Guinée ?
Vous savez, Nicolas, nous avons organisé deux élections majeures maintenant en Guinée. En 2013, il y a eu les élections législatives. Il y a eu aussi les élections présidentielles avant. Et je crois qu'ils ont été salués par toute la communauté internationale pour leur transparence. D'ailleurs, je crois que le Parlement guinéen présente le meilleur visage en matière de présence de l'opposition massive dans son hémicycle que pas mal d'autres pays. Donc c'est dire qu'on a maintenant l'habitude qu'il y a quand même une certaine tradition de transparence qui s'est installée dans le pays.
Mamadi Kondé, ambassadeur de la Guinée aux États-Unis, il répondait aux questions de Nicolas Pinault. Lutte contre Boko Haram. Le président du Nigeria, Goodluck Jonathan, est convaincu que le groupe État islamique a fourni de l'entraînement aux combattants de Boko Haram au Moyen-Orient. C'est ce qu'il a dit hier à Abuja dans une interview accordée à notre collègue Chris Stein. Lionel Gaïma nous présente les grandes lignes de cet entretien.
Goodluck Jonathan parlait 4 jours après que le leader de Boko Haram, Aboubakar Shekau, a fait acte d'allégeance aux djihadistes de l'État islamique. Le président nigérian n'a pas précisé où l'entraînement des éléments de Boko Haram a eu lieu au Moyen-Orient. Il a simplement dit avoir longtemps soupçonné que le groupe extrémiste nigérian avait formé des alliances avec des mouvements similaires à l'étranger.
We knew that.
Nous savons que ces liens existent, mais même maintenant, nous ne savons pas le degré de soutien que ce lien leur apporte du point de vue fonds, armes et combattants étrangers. Mais l'entraînement, parce que certains membres de Boko Haram vont s'entraîner dans les camps du groupe État islamique et reviennent au pays. Goodluck Jonathan est candidat à sa propre succession le 28 mars. On s'attend à ce que cette élection soit la plus serrée depuis le retour de la démocratie au Nigeria en 1999.
La guerre contre Boko Haram. La France va augmenter ses effectifs militaires au Sahel en raison des tensions liées aux activités du groupe islamiste nigérian Boko Haram autour du lac Tchad. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, l'a annoncé hier. Les effectifs de Barkhane au Sahel vont légèrement augmenter et ceux de Sangaris en Centrafrique vont diminuer pour, selon ses propres termes, donner des moyens de soutien et d'accompagnement sur les tensions qui se produisent autour du lac Tchad. Le ministre a toutefois précisé que les militaires français ne combattraient pas Boko Haram, mais apporteraient un soutien logistique, notamment en carburant et en renseignement aux forces tchadiennes, nigériennes et camerounaises engagées sur le terrain. Jean-Yves Le Drian s'est félicité de la vraie volonté des pays africains concernés de s'organiser entre eux et de mener le combat. C'est un élément nouveau qu'on apprécie, a-t-il confié lors de sa conférence de presse. La force Barkhane compte 3000 hommes et elle est déployée sur 5 pays, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Tchad. En Centrafrique, suite à l'amorce d'un dialogue national, Paris a commencé à réduire les effectifs de la force Sangaris de 2000 à 1700 hommes, passant progressivement le relais à la force de l'ONU, la MINUSCA. Au Bénin, Cotonou a accueilli ce 11 mars 2015 la 20e session du Conseil d'orientation et de suivi du coton qui coïncide cette année avec 10 ans de partenariat de l'Union européenne. À l'ordre du jour, l'offensive commerciale des pays africains producteurs de coton pour trouver des marchés pour leur production qui manque de compétitivité au plan international. Des précisions avec notre correspondant sur place, Peggy Ludovic Dagba.
À Cotonou, l'occasion a été donnée aux experts du coton africain de réfléchir et de trouver les moyens pour rendre cette offensive commerciale efficiente. Arifari Bako, ministre béninois des Affaires étrangères, a sa conviction en la matière.
La redéfinition et la mise en œuvre de politiques macroéconomiques associant les principaux acteurs en vue de relever les défis par la mise en place d'une synergie entre la production, la commercialisation et les investissements indispensables sont aujourd'hui plus que vital pour la survie du coton africain.
Tout ceci devant concourir au développement du coton africain, l'Union européenne est venue à la rescousse du secteur et ce, depuis 10 ans, pour des actions heureuses, comme nous le précise ici le secrétaire général du groupe des États ACP.
Le volet de développement du coton se gère dans plusieurs creusets, dont l'un des plus importants est le partenariat Union européenne-Afrique. Mis en place en 2004 à Paris, pour répondre aux défis de la filière coton, le partenariat UE-Afrique contribue depuis lors à la lutte contre la pauvreté dans les bassins cotonniers en Afrique.
Plus de travail pour plus de qualité, c'est désormais le credo des filières cotonnières africaines à la fin des travaux de Cotonou. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Et enfin, quelques news internationales pour être tout à fait complets. Une soignante britannique, membre de l'armée, a été testée positive au virus Ebola en Sierra Leone. Elle est en cours de rapatriement. C'est ce qu'a annoncé jeudi le ministère de la Défense, cité par l'AFP. Un groupe de parlementaires européens a appelé jeudi les dirigeants de l'Union européenne à lutter contre l'ingérence de l'industrie du tabac dans les politiques publiques. Venus de tous les groupes politiques du Parlement, ils ont créé un groupe de travail animé par le socialiste français Gilles Parnot. Et enfin, 2 policiers ont été grièvement blessés par balle jeudi matin dans la ville américaine de Ferguson, déjà théâtre d'émeutes l'été dernier. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous dans 50 minutes pour un nouveau bulletin d'information. Bon après-midi à l'écoute de VOA Afrique.